RTF. Il va radicalement changer l'informatique. Il sera sans commune mesure avec nos versions classiques. D'une rapidité incroyable, il révolutionnera la sécurité et la cryptographie. L'ordinateur quantique. Et moi, est-ce que je pourrais en avoir un ?
Alors peut-être vous aurez des générateurs nombres aléatoires dans votre ordinateur ou dans votre téléphone, etc. Ça peut être utile. Mais vraiment, un de ces ordinateurs quantiques avec des milliers de qubits, aujourd'hui, dans ces problèmes particuliers que les ordinateurs quantiques savent résoudre, ce n'est pas les problèmes de monsieur et madame tout le monde. Pour faire vos emails, pour taper votre correcteur orthographique, etc. Tout ça, vous n'en aurez pas besoin.
Microsciences, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences et dans un épisode où on va essayer de comprendre à quoi peut bien servir cette machine venue du futur. Et surtout se plonger dans la physique quantique. Une physique déroutante à bien des égards, mais fascinante, avec un objet qui peut être à deux endroits en même temps. Nicolas Gisin est professeur honoraire à l'Université de Genève et à la Constructor University. Sa spécialité, c'est la téléportation quantique. Et il sera notre guide dans ce monde caché et pourtant tout autour de nous.
J'aime bien me présenter comme un explorateur du monde des atomes et des photons. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour faire de l'exploration, il suffit d'explorer ce qui est juste là autour de nous et c'est merveilleux.
Un monde où il faut se débarrasser de sa logique quotidienne.
Oui, si vous pensez juste avec votre intuition quotidienne, que moi j'ai aussi, hein, je suis pas fou, pas totalement fou disons. Donc, avec juste l'intuition de tous les jours, ça ne va pas marcher.
Alors on y va, abandonnons notre logique habituelle et dans quelques minutes, on aura tout compris, ou presque, sur ces fameuses propriétés qui défient notre intuition. Parce que la physique quantique est le plus souvent livrée avec son cortège de termes incongrus. La téléportation, l'intrication ou la non-localité.
La non-localité, j'ai commencé par l'expliquer de façon un peu approximative, donc ce n'est pas totalement exact. Il faut imaginer donc, qu'on a, mettons, deux atomes, et ces deux atomes peuvent être loin l'un de l'autre. Mais ils peuvent être dans un de ces états intriqués. Et dans ce cas-là, lorsqu'on touche l'un des deux, l'autre tressaille, bien qu'il soit à distance. Et donc, il y a effectivement ces deux atomes, selon la théorie quantique, sont décrits comme un seul système. Même si on a envie de dire, il y en a deux. Mais c'est un seul système néanmoins.
Jusque-là, tout va bien. Les deux atomes sont liés par un lien indéfectible. Si je bouscule l'un des deux, l'autre sera bousculé aussi.
Voilà, maintenant, lorsque je dis on touche l'un et ça fait tressailler l'autre, ça donne tout de suite l'idée que ils se communiquent. En fait, ils se communiquent pas, ou en tout cas leur communication n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, nous les humains. Ce qui fait que si je touche l'un, la manière dont il réagit est aléatoire. Il y a de l'aléatoire quantique, ce fameux hasard, ce vrai hasard quantique, et l'autre va aussi changer de façon au hasard. Mais de telle sorte que puisque ça change au hasard et que nous, on ne contrôle pas cet hasard, on ne va pas pouvoir utiliser cette non-localité pour transmettre de l'information.
Ok, je bouscule mon atome, mais je ne sais pas comment il va réagir. Mais l'autre, celui qui est ailleurs, réagira exactement de la même façon. Vous savez à quoi ça me fait penser ? À deux pièces de monnaie identiques. Vous en avez une, j'en ai une. Nous tirons à pile ou face. C'est le hasard. Mais là où cela défie notre logique, c'est qu'à tous les coups, nous obtenons le même résultat.
Voilà, si on veut par l'imagination prendre une pièce de monnaie quantique et qu'en plus elle soit intriquée, qu'on ait réussi à intriquer nos deux pièces de monnaie quantique, à ce moment-là, si je fais la même mesure des deux côtés, par exemple, je lance mes pièces de monnaie des deux côtés, mettons avec la main droite, je vais obtenir le même résultat, effectivement. Mettons que tous les deux, on la lance avec la main gauche. On fait une autre expérience, puisque c'est la main gauche cette fois-ci, c'est une autre expérience. Là aussi, on va trouver systématiquement le même résultat, grâce à cette intrication. Même si vous, vous êtes à Lausanne et moi à Genève, mettons.
Et déjà ça, c'est dingue. dans le monde que l'on voit nous, ce n'est pas possible. Mais à l'échelle des atomes et des photons, c'est possible.
Maintenant, supposons que vous l'utilisez avec la main droite et moi la main gauche. Alors, dans ce cas-là, mettons, on trouve de nouveau le même résultat, mais si c'est vous avec la gauche et moi avec la droite, à ce moment-là, on trouvera toujours des résultats opposés. Le fait qu'il y a soit une très forte, ou une parfaite, mais non, très forte corrélation, mais dans un des quatre cas possibles, hein, vous avez deux mains, moi j'ai deux mains, ça fait quatre cas possibles, il y a un des quatre cas où tout à coup, au lieu de trouver une très forte corrélation, on trouve une très forte anticorrélation. C'est-à-dire on trouve le résultat opposé, vous pile, moi face, ou vous face et moi pile. C'est ça qui est en fait exclu dans la physique classique, sans communication, donc à distance. Avoir trois fois sur quatre le même résultat des deux côtés, mais une fois sur quatre les résultats opposés, enfin, tout le monde devrait se convaincre que c'est impossible. Et c'est là où on voit que la physique quantique a ce côté totalement contre-intuitif et qu'il faut commencer à parler d'intrication, cette manière de dire que ces deux objets sont à distance, mais néanmoins ne constituent qu'un seul objet, un objet délocalisé, pour ça qu'on parle de non-localité. Et donc, la physique quantique, ça ne se comprend pas juste avec un papier et un crayon, puis faire des petits dessins. Il faut commencer à devenir plus abstrait, à s'autoriser, à aller plus loin dans ce genre de réflexion. Et là, il faut reconnaître que ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, ce n'est tellement pas facile qu'Einstein lui-même ne croyait pas à ce qu'il avait appelé l'action fantôme à distance, pour se référer à l'intrication quantique. Mais elle a été prouvée par expérience. Et Einstein, d'ailleurs, ne croyait pas non plus au hasard.
Le hasard quantique le dérangeait et dit « Dieu joue pas au dé ». Aujourd'hui, on sait que, en tout cas en physique quantique, on a ce vrai hasard quantique. Mais lui, à force d'avoir passé des décennies à travailler très fort et très dur pour développer la relativité, en l'occurrence, qui est une théorie essentiellement, disons, déterministe, lorsqu'ensuite on vient lui dire « Non, mais la nouvelle physique, cette physique quantique, elle va complètement différemment », c'est pas surprenant qu'il a dit « Non, mais ça, c'est pas possible ». Il faut quand même reconnaître qu'encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas décrire de façon unifiée la relativité et la physique quantique. Donc Einstein, il a très vite vu, c'est quand même un génie, donc il a très très vite vu que cette nouvelle physique qu'on lui présente là, ça ne colle pas du tout avec tout ce qu'il a fait.
Mais les clés sont là. Dans un monde quantique, avec l'intrication, la non-localité et la téléportation. Et les événements ne se passent pas comme je les imaginerais dans mon monde de géant. Il n'y a pas de communication entre deux particules intriquées. Mais il existe entre elles des liens invisibles qui engendrent parfois des réactions imprévisibles, même si elles sont distantes l'une de l'autre. Et ce phénomène d'intrication, ça marche dans toutes les circonstances ?
Avec les atomes, on sait que ça marche. Avec les photons, ces particules de lumière, on sait que ça marche. On peut aussi avoir d'un côté un atome et de l'autre côté un photon. Après, il faut définir qu'est-ce que ça veut dire le même résultat. Mais on sait faire tout ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment un domaine de recherche très actuel. Et on voit bien qu'on peut prendre des objets pas mal compliqués, mais pas aussi compliqués même que la pointe de votre stylo. La pointe de votre stylo, il y a déjà des milliers, des milliards d'atomes là-dedans. C'est déjà beaucoup trop compliqué pour la technologie d'aujourd'hui. La théorie, elle dit que ça va marcher aussi avec même le stylo complet.
Mais on n'en est pas encore à la pratique. Et le stylo quantique, on le laisse de côté pour l'instant. En attendant, on peut fabriquer ces particules intriquées et intrigantes.
Alors, il y a plusieurs manières de faire. De nouveau, je vais commencer par l'exemple le plus simple. En gros, il faut commencer par produire deux photons en même temps. Pour pouvoir justement en envoyer un, disons, à gauche, à droite, un chez vous, un que je garde près de chez moi. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour créer deux photons en même temps ? En fait, on va prendre un photon bleu, mettons, et on va le mettre dans un cristal non linéaire. Non linéaire, ça veut dire que les électrons dans ce genre de cristal oscillent de façon asymétrique. Nous, on dit anharmonique, mais non asymétrique. Et donc, ça va générer des fréquences, des harmoniques de fréquences. Et donc, ça va générer des photons d'énergie plus basse. Donc, le photon bleu va se scinder en deux photons rouges, mettons. Et évidemment, l'énergie des deux photons rouges, c'est la même que l'énergie initiale.
Jusque-là, tout va bien. on a coupé un photon, une particule de lumière, en deux morceaux avec un cristal.
Ça ne veut pas dire que les deux photons rouges ont exactement la moitié de l'énergie du bleu. Mais s'il y en a un qui est un petit peu plus, l'autre un petit peu moins. S'il y en a un qui est un petit peu moins, ben l'autre il est un petit peu plus. Donc on voit déjà là une corrélation, plutôt une anticorrélation. S'il y en a un qui est un peu moins, l'autre un peu plus. Et donc chacun des deux photons a une énergie avec une certaine indétermination, mais la somme des deux est parfaitement déterminée. Puis ensuite, on peut se poser la question, quand est-ce que cette transition du photon bleu à deux photons rouges s'opère dans notre cristal qui fait quelques centimètres de long, donc ça prend un tout petit peu de temps là. Et en fait, le moment exact où il y a cette transition est de nouveau indéterminé. Par contre, forcément, de nouveau par conservation de l'énergie, les deux photons rouges doivent être créés en même temps et au moment où le bleu disparaît. Donc ils ont exactement le même âge, mais un âge indéterminé. Et donc là, on voit de nouveau une corrélation parfaite. C'est exactement le même âge, comme si je les lançais les deux avec la main droite, et je regarde, je leur mesure cette fois-ci leur âge. Ce n'est pas pile ou face, c'est un peu plus compliqué à mesurer un âge, mais vous voyez l'idée. Et ils vont tous les deux me donner le même âge, même s'ils avaient un âge indéterminé avant. Par contre, si maintenant je mesure leur énergie, là, ils vont me donner des résultats anticorrélés. Donc ça, c'est... Bon, très très grossièrement résumé, comment on fabrique des photons intriqués.
Et donc, ces deux photons vont réagir comme s'ils n'étaient qu'un seul et unique objet.
C'est en fait encore plus compliqué que ça.
Oh mince.
Ce qu'on peut faire, mais qui est complètement génial, c'est qu'on peut prendre une paire ici de photons intriqués, une deuxième paire de photons intriqués, et les deux, mettons, du milieu, je vais les mettre ensemble... de telle sorte que les deux à l'extérieur, qui ne se sont jamais vus, sont maintenant intriqués. Donc on peut intriquer aussi des photons, ou des atomes d'ailleurs, qui ne se sont jamais vus. Et donc il ne faut pas penser que tout provient de mon petit cristal non linéaire. Bon, il a bien fallu que je crée mes deux paires de photons, avec deux cristaux non linéaires, mais à la fin je peux intriquer deux photons qui ne se sont jamais vus. Et ça c'est tout à fait fascinant. Puisque là, il est évidemment exclu de dire « oui, mais c'est simplement qu'ils se sont vus à la source, etc. » Ils ne se sont jamais vus, ces photons, et néanmoins, ils sont intriqués.
Sauf qu'un photon, ça va super vite. Faut quand même être ultra rapide pour le capturer.
C'est vraiment pas facile. Alors, ce qu'on fait souvent, en tout cas chez nous à Genève, on a fait énormément dans mon groupe, et ça continue, c'est de mettre les photons dans des fibres optiques. Ces fibres optiques qu'on utilise, même quand vous écoutez la radio, ça passe quand même par des fibres optiques. Et donc, une fois qu'ils sont dans une fibre optique, on sait où il est le photon. Déjà, il est dans la fibre optique. Après ça, où le long de la fibre optique il est, là, on sait à quelle vitesse il se propage, connaître la longueur de la fibre. On arrive finalement à maîtriser ces photons et à pouvoir les recombiner, etc. L'autre chose compliquée aussi, comment est-ce qu'on fait pour voir un seul photon ? Surtout que nos photons, en général, ils ne sont pas dans le rouge, ils sont dans l'infrarouge. Donc, on ne les voit plus avec les yeux. Il faut des détecteurs de photons, ça de nouveau, on a développé tout ça. C'est les détecteurs de photons qu'on a développés et d'ailleurs commercialisés à Genève.
Et en contrôlant ces photons intriqués, ces systèmes, on peut faire de la téléportation. Imaginez nos deux pièces de monnaie. À partir du moment où vous tirez à pile ou face l'une des deux pièces, le résultat se matérialise sur l'autre pièce également. C'est l'état de la pièce de monnaie quantique qui a été téléportée. Toutes ces propriétés, invisibles à nos yeux, mais bien réelles, nourrissent l'imagination des scientifiques. Et passé le moment de fascination, les pièces qui tombent toujours du même côté, l'intrication, la non-localité et surtout le hasard s'avèrent très utiles.
Le hasard, c'est quelque chose d'hyper utile. Vous pouvez vendre du hasard. Parce que finalement, quand on vous demande des mots de passe... On aimerait que ce mot de passe, il soit au hasard. Alors, je sais bien que la plupart des gens, ils vont prendre comme mot de passe le nom de leur conjoint ou la date de naissance de leurs enfants ou des trucs comme ça. Un vrai bon mot de passe qui va être utilisé par un hôpital qui prend au sérieux sa sécurité, évidemment une banque, une grande industrie, les gouvernements, etc. Donc, eux, ils ont besoin de vrai hasard. Vous ne pouvez pas simplement demander à votre secrétariat de produire du hasard. Ça ne va pas marcher, ce n'est pas au hasard. Surtout si maintenant, je vous en demande... des centaines de milliers de chiffres au hasard par seconde. Là, ça devient vraiment compliqué. Or, là, la physique quantique, elle a la réponse très facile. Ça, c'est une application facile, franchement, relativement facile. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des générateurs de nombres aléatoires quantiques, la société ID Quantique à Genève, et puis vous pouvez même mettre ça dans une petite puce de 2 mm à peu près de côté, qui produit, je sais pas, je crois que c'est 100 000 bits aléatoires par seconde, et vous pouvez mettre ça dans un téléphone, et tout à coup, vous avez un téléphone qui vous permet de véritablement générer des secrets ou des clés cryptographiques, disons, comme on dit. Mm-hmm. Et ça, c'est donc une première application.
Et comment on fabrique volontairement du hasard ?
Chaque fois, c'est un photon. Et ensuite, ce photon, il va aller rencontrer plusieurs détecteurs. Et quel détecteur clique ? Ça, c'est une des signatures du hasard quantique. Donc ça, c'est justement le plus simple, parce qu'il y a aussi un seul photon. C'est relativement simple de faire ça.
Et ce n'est qu'une des façons d'exploiter ces propriétés quantiques, où l'on n'utilise que le hasard. Mais l'ordinateur quantique utilisera aussi d'autres propriétés. Un ordinateur, c'est un engin qui calcule. Donc, un ordinateur quantique calculera de manière quantique.
Dans un ordinateur classique, on parle de bits. Tout le monde a entendu parler des bits. Voilà, on a des gigabits dans notre ordinateur, ou même des terabits, etc. Ces bits, c'est juste des 0 et des 1. C'est l'unité d'information classique, comme le pile ou face. Mais maintenant, si la pièce de monnaie ou le pile ou face est quantique, à ce moment-là, il peut être dans un état de superposition, en quelque sorte être en même temps sur pile et sur face. Ou pour un bit, on va dire, il est en même temps 0 et 1. Et donc, à ce moment-là, on parle de bit quantique, ou pour faire plus court, on dit qubit.
Donc, un bit classique est binaire. Soit il est 1, soit il est 0. Un qubit peut être les deux à la fois. C'est cette propriété de superposition d'état et d'intrication qu'on va utiliser. Mais un bit tout seul, qu'il soit Q ou pas, ça ne sert à rien. Il faut des programmes qui puissent lui dire de calculer, des Q-programmes en quelque sorte.
On est étonnamment assez avancé avec les logiciels, les programmes. Effectivement, il y a certains problèmes où on sait qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux avec un ordinateur quantique qu'avec un ordinateur classique.
Et c'est de là que découlent toutes les idées de ce qu'on pourrait faire avec un ordinateur quantique. Pour vous donner une idée concrète, si vous recherchez dans la vraie vie, un nom dans un bottin téléphonique dont tous les noms ont été mélangés, ça va vous prendre du temps. En revanche, si vous avez la chance d'avoir un ordinateur quantique, vous allez commencer par attribuer une case à chaque nom, une suite de 0 et de 1. Puis, vous allez superposer tous ces noms sur une même ligne, dans des groupes de qubits, dans une Q-mémoire. En utilisant des algorithmes, les calculs sont redoutablement rapides. Si l'on cherche un nom dans une liste de 100 millions de noms, un ordinateur classique fera appel à 50 millions de calculs. L'ordinateur quantique, lui, se contentera de 8000 calculs pour le même résultat.
Et maintenant, le problème pour l'ordinateur quantique, c'est qu'il faut le fabriquer quand même, cet ordinateur. La grande difficulté, mais qui est vraiment commune à toutes ces technologies, c'est qu'on ne veut pas juste faire 1, 2, 3 qubits. Il faut ensuite en faire des milliers, peut-être même des millions, vraiment beaucoup, et pouvoir garder ce que nous on appelle la cohérence quantique en tout ça. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir juste vous et moi avec nos pièces de monnaie quantique, on va avoir toute la population suisse, mettons 10 millions à peu près, de personnes qui vont chacun avoir un qubit et puis qui devront tous arriver à le garder suffisamment bien protégé pour ne pas le perdre, pour qu'il reste dans cet état d'intrication. Alors évidemment, si on en a 10 millions, vous voyez bien que les états d'intrication vont être d'une complexité hallucinante. Et ça, c'est la grande difficulté, c'est d'arriver à passer à cette échelle où ça devient utile. Mmh. IBM annonce que leur dernier ordinateur, ou bébé ordinateur quantique, c'était 433 qubits. Et ce que je ne sais pas, je crois qu'on ne sait toujours pas très bien, c'est quelle est la qualité de ces qubits. C'est facile, encore une fois, d'en faire énormément de très mauvaise qualité.
Et ils font quoi, ces bébés ordinateurs quantiques ?
Ce qu'on a déjà fait, ce que Google a fait il y a déjà même quelques années, c'est inventer un problème qui ne sert à rien du tout, mais quand même, qui est un problème bien posé, etc. Et pour lequel on a vraiment pu démontrer que l'ordinateur quantique a pu faire mieux qu'un ordinateur classique. Dans ce sens-là, Google a déjà pu annoncer cette fameuse suprématie quantique ou avantage quantique.
Alors, on invente un problème, un calcul ultra compliqué, qu'un ordinateur classique mettrait des milliers d'années à résoudre. Comment on sait que le résultat est juste ?
C'est une bonne question, ça. Effectivement, pour certains cas, si je vous dis, bah, tiens, fabriquer cette molécule, elle va être miraculeuse contre, je sais pas, le cancer de je sais pas quoi. Ben là, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites la molécule, puis vous testez. Vous faites toutes les études cliniques, etc. Mais il y a d'autres problèmes. Je vous donne un très grand nombre, un nombre avec des centaines, voire des milliers de chiffres. Et puis, je vous demande, factorisez-le. Dites-moi comment on le décompose en nombre premier. Alors, là, une fois que vous avez donné le résultat, c'est facile de vérifier. On prend les nombres premiers qui sont annoncés, on les remultiplie. Multiplier, c'est facile, c'est quelque chose qu'on sait bien faire. En tout cas, les ordinateurs classiques savent très bien faire. Et puis ensuite, on vérifie. Donc, il y a des problèmes qui, une fois qu'on a la solution, c'est facile de la vérifier, bien que ça soit très difficile de trouver la solution.
Pour l'instant, ces ordinateurs se heurtent à des limites techniques. Mais un jour, ils s'attaqueront à des problèmes concrets. Mais à la fin, ce ne sera pas l'ordinateur qui sera sur mon bureau.
Moi, ce que j'imagine plutôt, c'est qu'il y aura quelques processeurs quantiques. Je pense d'ailleurs que la terminologie de processeur quantique est plus adaptée qu'ordinateur quantique. Ordinateur, ça fait penser à ce qu'on connaît déjà. Donc là, c'est des processeurs quantiques qui pourraient même devenir extrêmement spécialisés, qui savent faire un certain type de calcul très bien, et que si vous, disons plutôt Roche, Novartis, etc., ont besoin, soit ils achètent un tel processeur, soit ils l'accèdent à distance par Internet, puisqu'on va quand même communiquer classiquement avec ces ordinateurs.
Et quand ces bébés processeurs quantiques seront grands, ils seront capables de grandes prouesses. Modéliser le climat et la météo dans ses moindres détails, dessiner de nouveaux médicaments et prédire le comportement de certaines molécules, calculer des trajets optimaux de manière vraiment efficace, simuler les forces qui agissent sur les véhicules, les avions, inventer des engrais non polluants et même étudier la physique quantique. Mais ces processeurs pourront-ils tout prédire, tout modéliser ? Dans la série Devs, des ingénieurs développent un super ordinateur quantique et un programme permettant de calculer tous les événements sur Terre, dans le passé et dans l'avenir. Que nous réservent ces processeurs quantiques ? Ils pourront donc tout calculer ?
Ça n'existe pas tout ça. Le futur est ouvert. Personne ne calculera le futur. Et je pense d'ailleurs qu'un monde ouvert, c'est aussi beaucoup plus beau.
Si vous avez par hasard réussi à unifier les théories de la relativité et celles de la physique quantique, écrivez-nous à microscience@rts.ch. Microscience en un seul mot et au pluriel. Et ça marche pour toute autre question.
Pourquoi je stresse ? Est-ce que je vis avec un homme de Néandertal ? Que fait cette fourmi dans ma cuisine ? Comment ma peau se répare ? Quelle est cette toxine qui a contaminé mon repas ? Quelle est cette voix dans ma tête ? Qui m'enverra la prochaine question de Microscience ?
Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous sur PlayRTS par exemple. Ils sont étroitement intriqués dans Microscience. Camille Dupont-Lahitte, coproductrice, toujours localisable. Andrea Glanville, attachée de production, souvent en téléportation. David Golland, réalisateur et gardien de la cohérence du son. Jérôme Nussbaum, invisible et dont les ondes musicales habillent ce podcast. Et moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique.